Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue à Cinérama. Aujourd'hui, eh bien, des films et une interview. Cette interview, ce sera celle de Audrey Lamy et de Louis-Julien Petit, le réalisateur de La Brigade. Bonjour Manu.
Bonjour.
Alors, tu es le seul en studio aujourd'hui.
Oui.
Et tu vas nous parler d'un film que tu n'as pas forcément apprécié d'ailleurs.
Pas vraiment apprécié, mais le sujet est intéressant. C'est De nos frères blessés de Hélier Cisterne.
Quant à Marine, elle nous parlera de En nous, documentaire de Régis Sodé. Et puis, eh bien, Guillem, il fera le grand écart entre Ambulance, dernier film de Michael Bay, tout en puissance, et puis Le temps des secrets de Christophe Baratier. Et c'est avec cette carte postale sur la Provence que nous allons commencer.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Eh oh, Lily!
Alors, tu dis quoi?
Mais je suis content, et toi, tu dis quoi?
Ah ben, alors, je suis content aussi, hein.
Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le Marcel?
Mais que je suis content.
Christophe Baratier succède à Yves Robert dans la suite des adaptations des Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. 30 ans après La gloire de mon père et Le château de ma mère, revoilà les aventures du jeune Marcel dans une France du début du siècle où son jeune héros va vivre des moments mémorables entre vacances et entrée au lycée, amitié espiègle entre garçons et découverte des premiers émois par le biais d'une voisine aussi intrigante que cultivée et bien sûr d'un charme certain. Si Marcel Pagnol a su défier le temps par une prose qui en a fait l'un des auteurs français les plus emblématiques et représentatifs de la France du XXe siècle, il est fort à parier que cette version cinéma du temps des secrets saura apporter son grain à moudre à la transmission de ses écrits au XXIe siècle et à une jeune génération bien éloignée des préoccupations d'il y a 100 ans.
C'est parti pour les vacances!
Premier arrivé!
J'ai gagné!
Ça va te faire tout drôle depuis le voir tous les jours derrière son pupitre.
J'allais quand même pas le faire redoubler pour mon plaisir.
À toi, Marcel.
À toi, Marcel.
Oh, misère. Une vraie bécheuse.
Peut-être bien qu'il aurait le béguin.
Faudra tout de même nous la présenter.
Il veut pas, parce que ça lui ferait honte.
Alors, Christophe Baratier livre ici un film particulièrement agréable et fidèle à son auteur, tout en lui insufflant une jolie dimension sur grand écran, à travers de multiples tableaux, tous à la gloire, non pas du père, mais d'une Provence assurément éternelle. La philosophie de Pagnol n'a pas pris une ride et est toujours aussi évidente qu'elle est inspirante. Le réalisateur des Choristes a fait un grand beau film pour toute la famille, brassant aisément les genres, du film d'aventure en culotte courte, en passant par la filiation ou encore le poids des regrets ou du deuil qui se profile. Le seul regret que l'on pourrait formuler est bien évidemment l'accent pas forcément toujours local, ni juste des acteurs, même s'ils offrent tous des interprétations belles et attachantes. Mais c'est le cas depuis la mort de Pagnol, alors bon, on ne s'en formalisera pas trop tant que l'esprit et la profondeur de son regard sur la vie est présent. Et tous ceux qui penseraient que c'est accessoire, rappelez-vous que cet accent marseillais n'a pas empêché Orson Welles de vouloir embaucher Rému sur ses films en son temps, car il pensait qu'il était, de ses propres mots, le meilleur acteur au monde.
Un beau sourire !
Pendant des années, tu l'as eu au milieu de ta classe. Buvant tes paroles. Et d'un coup, tu le vois grandir. Regarder les filles. Avoir ses secrets. Comme nous tous.
Le temps des secrets de Christophe Baratier est en salle depuis le 23 mars. Vincent Lacoste et Vicky Krieps, amoureux en Algérie, mais en 1954, c'est De nos frères blessés et c'est toi, Manu, qui nous en parle.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Votre mari a posé une bombe dans son usine.
Vous fréquentez des Arabes?
C'est un pays arabe. Je vois pas comment je ferais autrement.
Vous pensez que c'est un pays?
Il apparaît que vous avez intégré un groupe
reliée au Front de Libération Nationale.
De nos frères blessés vaut essentiellement pour son sujet. Alors non pas vaguement inspiré d'un fait réel, mais d'une terrible histoire que la France a préféré ignorer pendant des décennies. Celle de Fernand Yvetot, qui ouvre une page méconnue de la guerre d'Algérie. Ouvrier communiste militant pour une Algérie libre, Fernand Yvetot est accusé en 1956 d'avoir saboté l'usine dans laquelle il travaille pour y avoir posé une bombe qui n'a pas sauté. Son acte, commandité par le FLN, lui coûta la vie. Il est condamné à mort pour tentative de destruction d'édifices à l'aide d'explosifs le 24 novembre 1956 et exécuté le 11 février 1957.
C'est pour moi ?
Oui. Vous ne fumez pas ?
Si, si, si.
Alors, vous venez d'où ?
Algérie.
T'es où, là ?
Dans tes bras.
Chez moi.
Ma tête sur ton épaule.
Bon, santé.
Alger, c'est chez toi.
Pour la petite info, hein, il demanda à François Mitterrand, alors ministre sous René Coty, la grâce présidentielle qui lui fut refusée. Le film est une hagiographie de ce triste parcours tentant d'équilibrer petite et grande histoire, récit romanesque et cinéma politique. Élie Cisterne, auteur du remarqué Vandale, s'empare d'un sous-genre casse-gueule du cinéma français, la fiction de gauche, hein, entre guillemets, évoquant tout un pan de la production des années 70. Alors sans doute pour donner de l'ampleur à son projet, hein, et ne pas être enfermé dans une case, le réalisateur s'attarde d'abord sur l'histoire d'amour entre Hélène et Fernand, les deux tourtereaux qui se rencontrent dans le Paris des années 50. Hélène, sous le charme, s'exile avec lui à Alger et découvre progressivement la passion que Fernand éprouve pour son pays de cœur. Alors que l'Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule. Très soutenant sur les prises de position de son homme, Hélène s'inquiète de plus en plus des agissements concrets de ses idéaux, basculant progressivement du militantisme à l'activisme.
Tu caches des gens que je connais pas, ils sortent dans la rue la nuit, ah, regarde-moi !
Bah, si je me bats pas ici, je pourrais plus me regarder en face. N'importe où ailleurs, notre vie sera foutue aussi. Notre place à tous les Algériens, c'est ici. Et si on lutte pas tous ensemble, c'est foutu.
Je suis ici parce que je voulais qu'on soit heureux, qu'on ait une vie ensemble.
Vers votre propre pays, concitoyens, vous êtes un traître, Fernand Yvetot.
Le procès de votre mari était une mascarade.
Il a tué personne.
Alors il faut faire savoir son histoire.
Mais tu as fait quoi ? Hein, tu t'es battu ? T'es pas un héros parce que tu t'es battu.
Regardez, j'ai été torturé !
Mais lâchez-la !
D'un sujet passionnant, Élie Cisterne ne tire malheureusement qu'un grossier portrait d'un homme exemplaire combattant l'injustice et la liberté, se privant de la moindre ambiguïté. La générosité d'un film difficilement attaquable sur le fond finit par ennuyer puis agacer, tant la mise en scène ne filme jamais autre chose que ce qui est à l'écran. On a parfois l'impression de feuilleter un roman photo de propagande où le mélodrame n'est qu'un prétexte pour valider une idéologie que personne n'a envie de contester. Mais on aurait aimé voir des personnages moins lisses, plus ancrés dans une réalité sociale. Le film donne l'impression un peu dérangeante d'assister à la greffe factice de personnages typiques du cinéma d'auteur contemporain, soudain téléportés dans l'univers policier du cinéma à la papa. Et ça ne fonctionne pas toujours, voire pas du tout, malgré le talent indéniable de Vicky Krieps et Vincent Lacoste, hein, qui sont parfaits. Hein. La reconstitution soignée, la jolie photo accentue la dimension artificielle d'un drame politique qui devrait nous bouleverser, mais nous laisse de marbre. Quand arrive la sentence finale, hein, pourtant effrayante, l'ennui a déjà gagné le spectateur, enfin pas tout le monde j'espère, hein, là je parle un peu pour moi, qui ne parvient pas à s'émouvoir de l'horreur de la situation. Au mieux, le film pourrait illustrer un débat, non plus à la télé, mais dans un cinéma pour qui, en général, le sujet suffit. Si on se contente de ce peu, hein, on peut effectivement prendre du plaisir à de nos frères blessés. Si vous attendez un peu de forme, passez votre chemin et lisez par exemple l'excellent livre de Alice Zeniter, L'art de perdre sur la guerre d'Algérie, autrement plus passionnant.
De nos frères blessés est en salle depuis le 23 mars. Effectivement, c'est un film qui sera sûrement un peu accompagné dans les salles françaises. Une chef cuisinier talentueuse se retrouve dans un centre pour jeunes migrants. C'est la brigade de Louis-Julien Petit. Et ça va nous donner l'occasion d'entendre le réalisateur et puis eh bien, son actrice fétiche, Audrey Lamy.
C'est un état d'esprit.
Cinérama.
What else?
Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Après Invisible en 2019, Louis-Julien Petit récidive dans la comédie sociale qui tire donc vers le feel-good movie. Alors s'il y a 3 ans, nous étions dans un foyer de femmes SDF aux côtés d'Audrey Lamy, eh bien il garde Audrey Lamy, mais cette fois-ci le foyer est occupé par des jeunes migrants non accompagnés. Mais ce foyer, eh bien, sera le seul point commun entre ces deux films, car le scénario de La Brigade est un peu plus tortueux que le précédent film. Ici, nous suivons Cathy Marie, donc Audrey Lamy, qui est une excellente chef de cuisine. Alors, elle sait composer un plat, innover, mais le problème, c'est qu'elle est aux ordres d'une star de la télé-réalité de la cuisine qui veut tout régenter. Un jour, refusant les règles du jeu qui brisent sa créativité culinaire, eh bien, Cathy Marie décide de claquer la porte et puis bien de chercher un autre travail. Alors, tout ce qu'elle trouve, c'est un boulot de cantinière dans un foyer de jeunes migrants non accompagnés, géré par un certain Lorenzo, interprété par un François Cluzet qui en a vu d'autres. Alors les règles du jeu ne lui plaisent pas davantage, mais au moins elle va pouvoir les faire évoluer pour le bien des pensionnaires et pour son bien à elle. Voilà un peu la trame de ce film. Alors si elle place d'abord la barre haute en cherchant à magnifier des raviolis en boîte, elle va peu à peu s'adapter à son nouvel environnement. Et faute de main-d'œuvre, elle va s'entourer des jeunes du foyer qui vont pouvoir être les commis d'une brigade, d'où le titre du film, puisque la brigade en cuisine est ce qui compose l'équipe de cuisiniers. Avec ce nouveau film, Louis-Julien Petit coche toutes les cases. Et comme l'a déclaré François Cluzet, qui donne donc la réplique à Audrey Lamy, parlant du réalisateur, il dit que Louis-Julien Petit parvient à faire des films engagés, populaires et divertissants. Alors il n'a pas tort, c'est bien résumé. C'est l'une des réussites de ce film. En prenant un sujet qui pourrait avoir un caractère dramatique ou sinistre, le réalisateur parvient tout de même à tisser une comédie sans rire gras, sans rire déloyal. Il tire le trait d'une chef qui a du mal à trouver la confiance en elle, de jeunes qui ont leur maladresse et une histoire douloureuse qu'il taise, sauf le temps d'une courte séquence. La Brigade est une comédie alors effectivement sociale, avec un rire qui vient là pour désamorcer ce qui pourrait être pathétique, ennuyeux, afin qu'on s'attache plutôt au personnage qu'au sujet. Au-delà de ce qui se joue dans le centre pour migrants mineurs, entre ces jeunes et la cuisinière qui tentent de leur faire passer un CAP cuisine, synonyme pour eux d'avoir la chance de rester en France, le réalisateur construit une partie de son récit autour d'un amour-haine des émissions de cuisine du type Top Chef. Alors il en montre les coulisses, il en détourne les codes pour mieux conclure son propos. Point important, comme pour le précédent film Invisible, le duo Audrey Lamy-François Cluzet est entouré majoritairement d'amateurs, à commencer donc par les jeunes migrants non accompagnés qui jouent leur propre rôle. Une pratique de plus en plus courante dans le cinéma français dès qu'on aborde un sujet social mettant en avant une population particulière. C'était aussi le cas pour Ouistreham, dernièrement, d'Emmanuel Carrère avec une Juliette Binoche qui donnait la réplique à des agentes d'entretien. Mais reparlons de La Brigade avec son réalisateur et son actrice principale, Louis-Julien Petit et donc Audrey Lamy. J'ai notamment demandé à Louis-Julien Petit pourquoi tous ces films mettaient en scène des femmes.
À suivre, une tempura, un cannelloni.
La poudre d'hibiscus, ça va donner de l'acidité.
On va rester sur le balsamique. Vous faites partie de ma brigade, vous vous pliez à mes règles.
Ils ont aimé ou pas?
C'est pas la question.
Ah si, c'est la question qu'on doit se poser quand on est chef, excusez-moi. C'est bon, moi je me casse.
Quand on traite d'un sujet comme celui-ci, il faut être vrai. Et du coup, on oublie. On oublie les acteurs, on oublie les décors, les costumes. On est plongé que dans l'humain, dans des personnages qui essayent, dans l'émotion, quoi. Dans l'émotion pure. C'est ce qu'on essaie de faire avec La Brigade.
Et du boulot, du taf, il y en a.
Ouais, tu te souviens que tu m'avais donné ta carte? Oui, salut, c'est Cathy Marie à l'appareil. Bah, vas-y, tu me rappelles, alors.
C'était hyper, hyper important de... pour coller un maximum au personnage et puis pour le trouver, surtout de faire un vrai travail d'investigation aussi de mon côté, d'intégrer une brigade. Et c'est ce que j'ai fait dans un restaurant qui s'appelle Apicius à Paris, pour les observer, pour voir l'amour qu'ils ont pour leur passion, quoi. C'est un milieu particulier, moi je connaissais pas du tout, intégrer une brigade. Un univers très masculin, très militaire, un peu brutal, mais un vrai esprit d'équipe, très peu de femmes. Trouver sa place et puis trouver des personnalités, essayer de piocher des ingrédients qui me permettaient de construire ce personnage-là, apprendre une technicité évidemment, mais je vais pas vous mentir, je peux pas apprendre en 6 mois ce qu'eux font depuis l'âge de 14 ou 15 ans, mais en tout cas avoir des bonnes bases solides pour pouvoir être libre, arriver sur le plateau et être crédible.
Je cherche Lorenzo Cardi.
C'est pour le poste de chef de cuisine. Le restaurant, du coup, le lieu de charme.
Ah, mais c'est ici. C'est un foyer.
Ah, c'est-à-dire?
Ce sont des jeunes mineurs en attente de papier. les migrants. On a un peu extrapolé.
Bienvenue au foyer.
Si t'as le moindre problème, tu toques à ma porte.
Oh. Bonne nuit, alors.
Tu m'entends quand je parle comme ça?
Ah non, à peine, hein. À peine, à peine.
C'est vrai que je suis attiré par les trajectoires de femmes. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je m'allonge. Je pense à ma mère, sûrement, pour être honnête. Mais franchement, c'est ça, c'est que moi, j'aime les combattantes, quoi. Et puis, il y avait l'image de la famille, de la transmission, de la nourriture. Alors oui, sans faire de grands clichés, mais c'est aussi l'idée maternelle de ce que Cathy Marie, elle va rencontrer sa famille. Et ils ont tous été abandonnés. Ces jeunes, ces travailleurs sociaux, Cathy Marie.
Ils sont tous seuls dans leur...
Voilà,
leur...
ils sont tous seuls. Donc, en fait, ensemble, ils vont recréer une famille. Moi, c'est... Dans mon parcours de vie, j'ai l'impression que j'ai tout le temps fait ça. Donc, et notamment dans le cinéma. Donc, on recrée sa famille, et pour le meilleur.
Mais quel enfer!
Vous avez vu l'état de la cuisine?
Moi, je peux pas tenir les horaires pour 70 personnes seules.
Si vous avez besoin d'aide, vous demandez aux jeunes ici. Ils attendent que ça.
On est là!
Mais enfin, c'est pas possible, ils sont combien?
Ben, je t'avais dit, ils sont très motivés.
Vous avez des planches et des économes, là.
C'est quoi, économes?
Ils ne savent rien faire.
Ben oui.
L'énergie que cette nana va apporter d'un seul coup dans ce foyer qui est éteint, fatigué, épuisé. On voit hein, François Cluzet, Lorenzo Cardi, qui est sur ses béquilles et qui est épuisé, à pas être aidé, à aider les autres. Donc ce qui m'a aussi donné envie, c'est ça. C'est d'un seul coup, on a besoin aussi de temps en temps d'être réveillé et cette femme qui va être là et qui va les secouer à sa manière, un peu violente, très exigeante. Ça m'a donné beaucoup envie, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui m'a surtout donné envie, c'est au-delà du personnage. Le personnage, c'est la cerise sur le gâteau. Mais d'abord, ce qui me donne envie, moi, c'est l'histoire. Parce que je m'en fous de savoir si j'ai un deuxième, un troisième, un sixième rôle. Ce que j'aime, c'est vraiment avoir quelque chose à défendre, mais surtout, voilà, être dans une histoire qui me passionne, qui me donne envie d'aller voir au cinéma. Avant d'être actrice, je suis encore spectatrice. Je vais au cinéma et quand je lis des scénarios, je me dis, voilà, est-ce que cette histoire, j'ai envie de la raconter? Est-ce que j'ai envie de la voir? Est-ce que je paierai ma place de cinéma pour aller voir ce film? Et c'est souvent ce que je me pose comme question avant d'accepter un scénario. Bon, là, je savais, en connaissant Louis-Julien et le travail qu'on avait fait ensemble, je savais que j'allais de toute façon dire oui, mais voilà, il fallait aussi que l'histoire me séduise et il fallait que... Voilà, il fallait
on
que...
On l'a construit ensemble, le personnage. Il est écrit, il y a une base de travail. Moi, c'est ce que... Enfin, l'écriture, on se projette entre le travail d'investigation qui dure des mois, voire des années, et puis ce personnage de Cathy Marie où on se dit, bon... Par exemple, là, oui, je lui ai dit, tu sais, c'est une femme, quand elle a commencé à travailler dans les brigades, de chez Mathieu Paco, je lui ai dit, tu vois, il n'y a qu'une femme là-bas, au fond. Et donc, qu'est-ce que c'est d'être une femme dans un milieu de cuisine? Ben, surtout pour elle, ça peut l'enrichir parce qu'elle va vivre de frustration. Vous savez, ces personnages qui sont empêchés, on l'a tous, ça. On a tous eu un patron qui a dit... Alors attention mec, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui mais je sais comment bien faire. Oui mais non, en fait tu fais comme ça, ou tu te tais ou tu dégages. Eh bien Cathy Marie, c'est un peu celle qui rachète un peu tout le monde, la conscience de tout le monde. Il ben, y en a peu hein, des personnages qui font « Ah ouais ? Ben moi je fais comme ça. Eh ben je t'emmerde, je me casse. Oui. » Et parce que du boulot il y en a, oui mais elle l'a fait toute sa vie. Donc c'est un personnage qui va effectivement, qui est dans quelque chose d'assez individualiste, parce que frustré, parce qu'empêché de bien faire son travail, parce que exigeante avec elle-même, trop exigeante avec elle-même, donc avec les autres, et catapultée dans ce foyer où elle va s'arrêter finalement. Elle va ralentir, elle va regarder, se regarder, enfin déjà apprendre à écouter les autres, et puis se découvrir des capacités, des talents de pédagogue, de fin pédagogue, comme un prof en fait.
C'est quoi ça?
Ça c'est stylé mais...
Non, c'est pas stylé, c'est crade. C'est un chemin fastidieux pour devenir chef.
Fastidieux égal
compliqué. Vends-moi ton tataki de veau là.
La cloisée des semaines entre la terre et la mer éclate sur le palais et arrondit la mise en bouche.
J'ai rien compris.
Les cheveux, la couette, le machin, les fringues, tout a un sens. Tout a un sens. Pour nourrir le personnage,
les
vraiment.
Les couleurs, le moindre détail est calculé.
Moindre détail, parce que c'est de la comédie sociale, donc c'est pas de la comédie burlesque. On n'est pas dans un monde jaune et orange et bleu. On est dans une réalité et sociale et réelle, donc l'esthétisme doit être poussé, doit être vrai. Et pour le reconnaître, pour s'attacher à un personnage, mais tous ces détails sont excessivement travaillés pour avoir le meilleur, quoi, le meilleur de l'histoire.
C'est magnifique, ça, non?
Comment ça se passe à la plonge?
Fastidié, chef.
C'était Audrey Lamy et Louis-Julien Petit pour le film La Brigade, un film qui est en salle depuis le 23 mars. Faire un coup pour payer l'argent d'une opération chirurgicale, c'est ce que nous propose peut-être, sans finesse, Michael Bay.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Je suis désolé, petit frère. Désolé de t'avoir embarqué dans cette histoire. Je voulais que tout redevienne comme avant.
Signe des temps, l'empereur de la destruction est de retour. Absent des grands, très grands écrans depuis 2017 et le cinquième et dernier volet de sa saga Transformers, qui enflammait le format IMAX, le voici revenu après un petit, mais néanmoins tout aussi assourdissant détour par la case Netflix avec Six Underground. Avec Ambulance, il ressuscite le genre du film de braquage de banque que l'on pensait résolument cantonné au XXe siècle depuis l'avènement des échanges numériques. A ceci près que le braquage, bien évidemment hautement spectaculaire, n'est en fait que la première partie car, comme on pouvait s'en douter vu le titre, ses personnages principaux vont vite s'enfuir par la force des choses dans une ambulance qui ne va pas tarder à devenir le centre d'intérêt de toutes les forces de police de Los Angeles. Et c'est parti pour plus de deux heures d'un spectacle haletant qui ne s'arrête jamais. Alors, vaguement inspiré d'un film danois du même nom datant de 2005, hein, Michael Bay semble plus intéressé par la possibilité de délivrer une relecture personnelle de Speed, l'excellent film d'action hein, de 1994 de Jan de Bont. Il faut dire que la tentaculaire Los Angeles est un superbe terrain de jeu propice à toutes les dérives de course-poursuite possibles et que Bay, toujours à l'affût d'innovations techniques, a trouvé un moyen de renouveler un genre musclé mais plutôt balisé. Pour saisir les plans les plus spectaculaires possibles et offrir du jamais vu à son public, il sait cette fois de multiples drones capables de suivre dans des angles inédits les véhicules qui s'entrechoquent, mais aussi les anti-héros de cette histoire à l'intérieur des bâtiments, donnant une ampleur nouvelle aux fusillades et autres joyeusetés et joyeuses empoignades. Au milieu de cette foire d'empoigne, Jake Gyllenhaal s'en donne à cœur joie dans le rôle d'un voleur plus ou moins déconneur, mais surtout sujet à d'abrupts changements d'humeur, permettant à l'intrigue de ne jamais souffler une seule seconde et de rebondir constamment, comme les multiples voitures martyrisées.
32 millions.
Je cherche un gars en plus.
Je voulais juste emprunter de l'argent.
Est-ce que je t'ai déjà embarqué dans un truc impossible?
Là, t'as l'occasion de faire quelque chose pour ta famille.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On est en plein transfert de fonds, je vous ouvre dans 20 minutes.
J'aimerais bien pas trop tarder. J'ai bientôt fini mon service. Je braquerai pas la banque, promis, j'aurai.
Tant mieux, ça ferait tâche sur mon CV. Ok, bon. Ok, venez.
Très bien,
venez.
Parfait.
Ok.
Allez, on se barre.
Vous allez avoir une super histoire à raconter à table ce soir.
Arrêtez!
Ambulance vous en donnera assurément pour votre argent et si la simple explosion de testostérone ne vous satisfait pas, alors ce qui semble en soi impossible tant le film semble contenir l'équivalent d'une dizaine de films d'action contemporains en son sein et le tout en live s'il vous plaît, attendez de voir comment son réalisateur se réapproprie les désormais codes imposés par un Hollywood invariablement tourné vers l'inclusion et les préoccupations actuelles. Le tout sans jamais se renier. Alors, des boomers aux relations toxiques en passant par une scène clé hein, qui rejoue l'affaire George Floyd pour mieux sauver la mise à un des personnages principaux, voire même au méta, car oui, on y cite les répliques de The Rock ou les citations de Bad Boys. B fait littéralement feu de tout bois et ne déçoit pas dans un divertissement très haut placé sur l'échelle de Richter. Alors, amis du bon goût, passez votre chemin. Amateurs de sensations fortes délivrées par une mise en scène inédite, n'attendez plus, vous allez vous régaler.
Calme-toi, Danny.
Je veux revoir ma femme et mon fils.
Votre femme, elle sait que vous êtes braqueur de banque.
Nous, on n'est pas des méchants. On veut juste rentrer chez nous ce soir.
On va jamais s'en sortir.
Danny, on sait tous très bien que vous êtes dangereux.
Ah ouais, sans blague. Alors dites à vos hélicos de se barrer!
Ambulance de Michael Bay est en salle depuis le 23 mars, tout comme En nous de Régis Saudet. Plus de 10 ans après Nous, Princesse de Clèves, le réalisateur consacre un second film aux anciens lycéens.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
J'ai toujours travaillé dans les quartiers nord. J'ai vu passer dans ma classe plus de 3000 élèves, des centaines de prénoms. La matière que j'enseigne, la littérature, joue un rôle important. parce qu'elle permet à chacun de faire entendre sa voix.
Il y a 10 ans, une professeure de français dans un lycée des quartiers nord de Marseille, Emmanuelle, participait à un documentaire avec ses élèves réalisé par Régis Saudet et intitulé « Nous, princesses de Clèves ». Il s'appelait Abou, Kadiatou, Morgane ou Laura et chacun parlait au travers de l'étude du roman « La princesse de Clèves » de Madame de Lafayette, de sa vie et de celle dont il rêvait pour le futur. Une décennie plus tard, une dizaine d'entre eux se retrouvent avec leur ancienne professeure devant la caméra, toujours habile, toujours subtile, jamais intrusive, de Régis Saudet.
On parlait vraiment de quartier, quoi.
On parlait quartier, clairement. Avec l'accent marseillais bien prononcé.
C'est dingue de se revoir comme ça.
À la nôtre.
Je viens en France, je vois ma famille, je vous revois tous. C'était quoi le truc?
Chômage partiel, hein?
Ouais.
Eh ouais? Comme tout le monde.
Non, pas tout le monde, Albert.
En France.
Leur désir de visibilité a rejoint mon désir de cinéma. C'est avec ces mots que Régis Saudet expose son nouveau projet documentaire En nous. Alors, on connaissait le principe du sequel, également appelé tout simplement suite, pour les films de fiction, qui permet à des histoires de cinéma de s'étirer et aux spectateurs de retrouver les protagonistes qu'il a aimés dans des volets suivants. Avec En nous, eh bien, c'est le format documentaire qui se décline en une suite de films. Le réalisateur avait créé au cours du tournage du premier documentaire de vraies relations d'amitié avec les adolescents qu'il avait interviewés et filmés, des liens qui se sont perpétués au fil des années suivantes, dans les beaux moments comme dans les plus difficiles. C'est d'ailleurs Morgane, l'une des jeunes filles filmées dans Nous, princesses de Clèves, qui relancera Régis Saudet en lui proposant de faire une suite de son documentaire et en faisant se retrouver professeur et élève 10 ans après. Le cinéaste réalisant alors que c'est surtout dans, je cite, « un espace de cinéma » qu'il souhaite retrouver ses personnages, davantage encore que dans la vraie vie, il se lance dans la production de ce deuxième volet. Ces adolescents déconsidérés ont découvert qu'ils avaient une voix qui comptait grâce à Nous, princesses de Clèves et à l'exposition médiatique qu'ils ont reçue lors de la sortie du film, et ils désiraient à nouveau la faire entendre dans une France qui bascule au moment du Covid, puisque le film a été tourné en 2020. Les protagonistes ont d'ailleurs été à leur façon réalisateurs, autant que Régis Saudet, en choisissant les moments pendant lesquels ils souhaitaient être filmés, les moments qui les définissaient le mieux. Il y a Morgane, cette jeune femme qui a embrassé pleinement son homosexualité après qu'elle l'ait embarrassée pendant longtemps, qui s'est même mariée et a eu un enfant avec sa compagne. Il y a Sarah qui a voyagé, qui a galéré, Laura qui a brillamment réussi son mémoire. Il y a celle qui a déchanté quant à l'amour, celle qui a dû se réinventer parce que le marché du travail ne voulait pas d'elle. Il y a celles et ceux dont la couleur de peau a déterminé parfois contre leur gré certains événements de leur vie.
C'est vrai qu'il y a 10 ans, du coup, j'étais déjà avec Louis et j'en parlais pas. Je connaissais personne qui était avec une femme.
J'ai été éduquée dans une famille avec ces idées reçues qu'on a envers la femme. La femme à la maison, la femme qui fait le ménage. Donc très jeune, je me suis rebellée.
Il est assez passionnant de découvrir ce que ces jeunes, qui plus est issus de quartiers dits difficiles, ont fait pendant 10 ans, comment ils sont passés d'adolescents à adultes. Il est assez passionnant d'entendre parler ces pré-trentenaires qui ont totalement conscientisé les problèmes sociétaux qui les entourent, leur propre singularité, ainsi que les discriminations qui en découlent, dont ceux qui ont été retrouvés par le réalisateur, donc qui n'a sélectionné qu'une dizaine d'anciens lycéens. Beaucoup ont choisi la filière du soin ou la fonction publique. Ces jeunes femmes et hommes issus de quartiers difficiles ont choisi de s'épanouir dans le don de soi avec le besoin de prendre soin d'autres personnes. Et le film ayant été tourné en partie pendant la pandémie, la question du service public est évidemment centrale, ce qui ajoute une dimension très intéressante au film. En nous est un documentaire qui parle à travers ces jeunes adultes d'une génération tout entière, qui parle aussi de la France, de notre société actuelle qui ne les a pas toujours traités à leur juste valeur. Et le film, à sa façon, eh bien, leur rend un peu la place et la voix qu'ils méritent.
En nous, de Régis Saudet, est en salle depuis le 23 mars.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec des films et puis une interview, celle de Cédric Clapiche et Muriel Robin, pour un film relativement bon, qui s'appelle encore un film sur la danse. Quant à toi, Manu, ce sera un classique de la littérature française.
Une nouvelle version de Cyrano par Joe Wright.
À la semaine prochaine.
Oh non, coupé!
Monsieur Bakshi.
Oui, monsieur.
Est-ce que vous savez que ce film se déroule pendant l'année 1878?
Oui, ça, je suis prévenu, oui, je sais. Oui, ce film se passe en 78.
Monsieur Bakshi, savez-vous également qu'à cette date, en 1878, on ne portait pas encore de montre de plongée?
Ah oui, ça, je le sais aussi. Ça n'avait pas encore inventé, n'est-ce pas?
Et quelle heure est-il?
Attendez, il... Oh, bon sang.
Ça va, déjeuner, tout le monde.
Déjeuner, 40 minutes pour l'équipe technique, une heure pour les acteurs.
This is Cinerama.